Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 3 épisode 6. Ah,
salut Thibaut. C'est une manie là.
Ah mais non, c'est parti. C'est... Au moins tu commences l'épisode directement, bam, tu vois, t'es chaud quoi. C'est...
Énergique. Pump it up.
Bonjour à tous.
Non, tu laisses pas, voilà.
You got your pump it up, you got your no pump it up.
Ok, je sais pas. Okay, mais...
on a raison d'être... perdu tout le monde.
On a raison d'être chaud Thibaut pour cet épisode 6. J'ai été un peu méchant là, dans l'épisode précédent.
Je ne sais pas ce qui t'a pris.
Parce que je sais pas, fin d'épisode, sans doute un peu la fatigue. Je dis ouais, on va parler de films de gamins la semaine prochaine. Non.
Alors,
non.
Non. Mais un peu.
Parfois pour enfants, oui.
Oui, pour enfants.
Mais voilà. C'est pas des films de gamins, attention, non. S'il vous plaît. Films d'animation.
Il y en a un peut-être.
Mais... Ah, peut-être. Aujourd'hui, on va parler de films d'animation et tout l'épisode sera consacré aux films d'animation.
Oui, alors t'es déjà mal parti parce que le premier, techniquement, c'est pas un film d'animation.
Ok, on va recommencer l'enregistrement, je rigole. Ouais. Non, le premier n'est pas un film d'animation, il s'agit de Maléfique, le pouvoir du mal. C'est une suite du coup de Maleficent avec Angelina Jolie, ouais. Qui est sortie il y a quoi, il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça. Ça date un peu, c'était pas genre hier. Quoi.
Ouais,
c'était...
4-5 ans.
Ouais, c'est ça, donc c'est pas tout de suite, tout de suite. En effet, c'est pas un film d'animation, mais c'est un film de l'écurie Disney, mais c'est un film live action adapté d'autres choses. Donc...
Mais, ah non,
mais...
c'est tout.
Voilà, donc okay. C'est tout ça pour dire que ça reste comme dans un univers de adaptation, animation, on reste dans cet univers aussi féerique et enfantin. Mais il y a un truc qui m'énerve quand même dans cet épisode. C'est pour ça qu'on a réfléchi, toi et moi, on s'est dit c'est pas possible, on va pas commencer directement, on parle de Disney. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Les sorties Disney Plus? Non. On s'est dit on va arrêter de parler un peu de Disney, on va faire un retour en arrière, Back to the Future. Et on va voir...
Back to the past, plutôt.
Back to the past. C'est ça. Oui, non, pas le futur. Ça commence bien. Donc, Back to the past, où on va voir des films d'animation qui ne sont pas de l'écurie Disney, ou Pixar, d'ailleurs, hein, et tous les autres, qui sont vraiment européens, par exemple, ou pas.
Il y a des Américains, quand même.
Hein, bien sûr. Pas que. Mais voilà, des films qui ne viennent pas de l'écurie Disney pour faire un peu de la promo à autre chose. Parler des films japonais, parler des films belges aussi.
Oui. Bon, alors, on va pas se mentir, ça va être un peu le béaba du cinéma d'animation.
Oui.
On va pas peut-être un titre ou l'autre, mais je pense pas qu'il va y avoir d'énormes surprises.
Si vous aimez bien le cinéma d'animation, vous n'allez sans doute pas être surpris.
Et vous aurez sans doute tout vu.
Mais pour, pour toutes celles et ceux qui sont un peu moins friands du cinéma d'animation, vous allez sans doute avoir un nom ou deux. Vous allez, c'est quoi encore? Alors soit vous vous en rappelez vaguement, soit c'est un film que vous n'avez pas vu. Et dans ce cas-là, il est urgent de le voir. Parce que si c'est dans la liste...
Oui.
Ça doit être vu.
Avec de bonnes choses, là.
Voilà, clairement. Donc, ce sera notre watchlist tout au long de l'épisode entre chaque film, deux films qui ne viennent pas de l'écurie Disney. Très important. Alors, deuxième film dont on parlera cette semaine, c'est Abominable. Par contre, ce n'est pas un film Disney. On vous en parlera également.
C'est DreamWorks.
De DreamWorks, dans ce cas-ci.
Enfin, en partie.
Et troisième et dernier film de la semaine, c'est Shaun le Mouton 2, Shaun the Sheep, la ferme contre-attaque. On vous l'avait dit, hein. Cette semaine, c'est 100%...
J'aime bien le second titre anglais de Shaun the Sheep, c'est Farmageddon.
Oh, quel humour, et c'est
ouais.
Anglais, hein.
Ouais.
N'est-ce pas? Donc, on vous l'avait prévenu, hein. C'est un épisode 100% animation, si vous n'aimez... Oh, animation, avec... sauf Maleficent. Mais donc, si vous n'aimez pas les films d'animation...
Cassez-vous.
Non, passez votre chemin.
Restez. Mais non, justement, restez,
mais
parce qu'on veut vous donner envie.
Exactement. Oh là, t'es chaud, tu fais une promesse, on va vous donner envie.
Je suis chaud.
Vous allez vouloir arrêter ce podcast ou cette vidéo si vous le regardez sur YouTube parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour avoir les extraits du podcast. Mais forcément, si vous êtes abonné au podcast ici et que vous aimez nous écouter, parler, aller dans tous les sens pendant 1h30 ou 1h10, eh ben, restez ici sur iTunes ou Spotify, la plateforme de votre choix.
Ou encore d'autres plateformes. Hein.
Oui.
Parce qu'il y en a une multitude.
Parce qu'il y en a une multitude. Il n'y a pas que Spotify et iTunes. Voilà. On va commencer déjà à s'égarer, ça commence bien. On attaque tout de suite le premier film de la semaine, Maléfique, Le Pouvoir du Mal. Film avec, du coup, Angelina Jolie, Elle Fanning et Michelle Pfeiffer. De quoi parle ce film-là? Donc, c'est plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait un cœur si dur. Et ce qui l'avait conduit à jeter un terrible sort sur la princesse Aurore, Maléfique, le pouvoir du mal, continue d'explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu'elle noue d'autres alliances et affronte les nombreux adversaires dans leur combat pour protéger leur terre et les créatures magiques qui les peuplent. Ouh, ça c'est du synopsis, hein, faut le dire tout de suite. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande.
Il y a 5 ans, j'ai cru vous avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer. Voulez-vous m'épouser?
Oui.
Maîtresse, j'ai des nouvelles.
Tais-toi! Ne viens pas gâcher ma journée.
Le prince Philippe veut m'épouser.
Non.
Je ne demandais pas votre accord.
Je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojde.
S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire.
Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir, Aurore devient mon enfant.
Je rigole, c'est parce que c'était non. Ce synopsis m'a tué. Donc Thibaut, tu as vu Maleficent, le pouvoir du mal. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai pas vu le premier. Hein. Je dis tout de suite, mais à coup pas.
Bah écoute, le premier, c'est La Belle au bois dormant. Hein.
Oui.
Et le deux, bah c'est une suite inutile de La Belle au bois dormant.
Merci, c'était voilà. Zéro. Je rigole. Donc. Ok, bon.
Écoute, suite... il est très très frais dans ma mémoire parce que je l'ai vu cet après-midi.
Ouh, waouh.
Ouais.
Mais donc du coup, une suite, il y a pas de suite à la base, donc ils ont dû inventer un nouveau scénario autour du personnage, un peu comme la Blanche-Neige et le chasseur, quoi, un peu le.
Oui, c'est ça. C'est... Ils ont fait YOLO. Allez hop. En gros, alors j'ai pas vu la bande-annonce et je l'ai toujours. Là, je l'ai pas écouté. Hein. Parce que tu mets ça en post-production. Nous n'écoutons pas les bandes-annonces en live quand on les passe dans le podcast. Du coup, je ne sais pas si elle en parle, mais je suppose que oui, parce qu'à mon avis, si elle ne montre pas ça, elle ne doit pas montrer grand-chose. C'est que la petite Aurore que Maléfique élève dans le premier va épouser le prince du château d'à côté, avec qui ils ont toujours été un peu en froid, mais voilà. Mais eux, ils sont amoureux. Et donc, ils vont rassembler les deux peuples. C'est beau. Et il va se passer des petites choses un peu pas terribles au château. Hein. Le roi va être, on ne sait pas trop, empoisonné. Est-ce qu'on lui a jeté un sort? Oh, serait-ce maléfique? C'est elle la coupable toute trouvée.
On a dit qu'on allait vous donner envie de voir des films d'animation.
Oui, mais pas celui-là.
Oui,
pas
d'accord,
celui-là.
Mais...
On évacue...
Parce que quand t'en parles, tu donnes vraiment envie. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le château?
Non, mais celui-là, on va l'évacuer assez vite, j'espère. Bref, Maléfique va découvrir qu'en fait, elle n'est pas la seule personne avec des cornes et des ailes. Voilà. Et donc...
Waouh.
Oui. Oui, oui.
Il y a plus Maléfique, en fait, c'est le troisième ça.
On essaye de faire passer Maléfique pour la méchante alors qu'elle n'est pas la méchante.
Oh,
en vrai, c'est la reine,
c'est
la méchante.
Sûr.
C'est pas le film le montre très clairement dès le début, hein. il y a pas de surprise. Et la reine.
Mais si je me trompe,
jouée par Michelle Pfeiffer évidemment.
Mais si je me trompe pas, le premier du nom Maléfique, il y avait un petit côté un peu sombre, non? Ils avaient joué un peu sur cette vibe-là, un peu, tu sais, un jeu qui fait peur, le rôle de la méchante et tout.
La Belle au bois dormant, c'est assez flippant hein, comme film d'animation.
Et donc dans celui-ci, ça a l'air d'être un peu plus plan-plan hein, de ce que tu me racontes.
Oui, carrément.
Un peu moins ambigu.
Ah ben, c'est...
ça a l'air très clair, plutôt.
Tout est très très très...
Et est-ce que le roi est un peu petit, gros, avec une moustache blanche? C'est ça la question.
Il est un peu petit avec une barbe et une moustache, mais il n'est pas spécialement gros.
D'accord. Pour changer.
Oui.
Donc... Les points forts du film, c'est quoi?
Excellente question,
Guillaume. T'es censé nous vendre le truc là. T'as dit on va vendre l'animation. Bon, j'attends.
Comme je te dis, celui-ci, je vais pas m'efforcer à le vendre.
Ok.
Parce que voilà, ça m'a laissé de côté. Et c'est vraiment le genre de film où toutes les 5-10 minutes, je me tournais vers ma collègue qui était à côté de moi. On se regardait, genre, vraiment, il s'est vraiment passé ça? Ils ont vraiment dit ce qu'ils viennent de dire? Les effets spéciaux sont vraiment aussi dégueulasses qu'ils en ont l'air? Ouais,
c'est vrai que j'ai quasiment vu aucune affiche pour ce film, même bande-annonce, quoi que ce soit, nulle part, alors que le premier, je me rappelle, il était partout dans tous les abribus.
Ah non, mais là,
c'est son métro,
c'est
là,
terrible,
c'est
hein.
Oubliette.
Très honnêtement, après 10 minutes, un quart d'heure, je me suis déjà dit... que j'en avais marre, que le film me saoulait déjà. Effectivement, ça s'est pas amélioré en cours de route. Mais le truc, c'est que tout est très 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 prévisible. Il y a aucune surprise. On te rabâche les mêmes clichés Inlassablement, enfin, si, très lassablement, justement. C'est terrible parce que. Oh, en fait, je suis pas la seule, je suis pas toute seule de mon espèce. Oh, en fait, vous êtes nombreux. Oh, je vais me battre pour mon peuple. Oui, mais en fait, il y a ma fille. Enfin, qui est pas ma fille. Enfin, tu. Oh là 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 là, là, là c'est une catastrophe, quoi.
Vous l'aurez compris.
Si t'as jamais vu un film de ta vie, ok. Tu peux voir ça.
Et encore, si c'est ton premier film de ta vie, tu te rends compte.
Ouais, oui, ce serait assez triste d'avoir ça comme premier film.
C'est dans quoi sa le vie. Premier film de ta vie, mon fils ?
Maléficient, le pouvoir du mal.
Ah oui, ok, d'accord.
Non, mais c'est très, très cliché. Il y a zéro surprise. Il y a que des enjeux vraiment ridicules, avec des personnages qui sont pas très intéressants. Visuellement, c'est très, très moche. Comme souvent, j'ai l'impression chez Disney en ce moment, les effets spéciaux, c'est quand même jamais. Waouh!
Tu sais, ou que c'est chez Marvel qui mettent le pognon.
Ouais, 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 c'est ça. Et bah, du coup, en fait, tu t'en fiches un peu de ce qui se passe, quoi. T'es là, ouais, bon, tu regardes ta montre, fais. Ouais. Ah! Cette fin est interminable.
Déjà, le film fait 2 heures, faut
déjà,
bien préciser.
Ouais, déjà que le film fait 2 heures, j'ai l'impression que la fin, elle fait 20 minutes, un quart d'heure. C'est waouh, j'en pouvais plus. Il était temps que ça se termine. Vraiment.
Je pense pas que tu iras voir le Maléfique 3 si jamais ça sort sur
Écoute,
nos écrans. Mais...
Par devoir professionnel, j'irai.
Mais vu le manque d'inspiration sur les deux, là.
Ah ben écoute, oui, c'est d'une tristesse. Angelina Jolie, elle est insipide. Hein. Vraiment insipide. Elle Fanning, qui est une actrice qui fait pourtant plutôt de bons choix. En termes de cinéma d'auteur, etc., je comprends pas. Elle est inexistante. Michelle Pfeiffer, hein. Elle fait la méchante, comme d'hab. Elle est insupportable.
Du coup, c'est bien. Du coup, elle est très bien.
Ouais, mais c'est. Enfin. Ça passe peut-être quand t'as 6 ans, quoi, mais. Au-delà de ça, voilà. Je vois pas qui serait intéressé par ce genre de film. C'est triste.
C'était la critique, Thibaut. Du coup, combien d'étoiles ?
Zéro.
Zéro pour Maléfique, le pouvoir du mal. On va vous donner envie de regarder des films d'animation, on vous le promet.
Maintenant, tout de suite.
Maintenant, là, tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on va vous parler des films d'animation qui ne proviennent pas de Disney. Et donc, du coup, c'est un peu le titre ici, c'est la watchlist. Disney n'a pas le monopole de l'animation, parce que tu vois, on a un peu le côté journalistique.
T'as pondu un titre, là.
Wow. Comme ça, vite fait. Alors... On va commencer par 4 films maintenant.
Oui.
Et puis on fera 4 autres films dans la deuxième partie du podcast entre les 2 films suivants.
Ouais. Et si vous nous avez écouté sur YouTube, a priori, ça devrait avoir été.
Par la magie du montage.
Fusionné.
Vous allez avoir les 2.
Magic.
Raison de plus pour s'abonner à notre chaîne YouTube.
Et on commence.
Contenu exclusif.
On commence tout de suite par un chef-d'œuvre, disons-le.
On commence tout de suite par. Un des grands films.
L'as-tu vu, Guillaume ?
Je pense pas que je l'ai vu en entier, figure-toi.
Ah !
Non, mais j'ai un petit enfant, et donc à mon avis, je vais devoir le rattraper un de ces 4.
Mais j'espère.
Sans trop de soucis. Par contre, je sais que c'est Hans Zimmer qui a fait la bande-son. Un film qui est.
Oui, tu me poses une colle.
Si.
Oui, si.
Et donc, du coup, film un peu sous-estimé de DreamWorks Animation. Hein,
carrément sous-estimé.
Que les gens ont un peu oublié, parce qu'à cette époque-là, Disney était encore assez fort. Hein, ils avaient fait Mulan, je pense, au même moment.
Même année.
Voilà. Et donc, en face, il y avait quoi ? Le Prince d'Égypte.
Ouais. De DreamWorks.
Fameuse histoire avec les 2 frères, etc. Ça, je
n'ai jamais que le deuxième film de DreamWorks. Hein. Le premier, c'était Fourmise. Et puis, 1 ou 2 ans après, bam, Le Prince d'Égypte, quoi.
Gros film pour eux. Ouais. Vraiment, tout un bazar avec des visuels assez travaillés pour l'époque. Avec des... Enfin, je me rappelle de ce que j'ai vu. C'était vraiment... T'as l'impression de voir... J'ai pas envie de dire un peplum, mais tu vois vraiment, t'avais le truc... Et tu vois vraiment là, comment dire, tu avais les pyramides, les décors qui étaient très soignés pour un film animé. C'était assez rare, je veux dire. Allez, tu vois dans la dinde, tu vois le palais et tout, mais ça va pas plus loin.
Ouais.
Et là, tu vois, t'avais vraiment les décors très soignés pour un film d'animation. Je me rappelle de ça en tout cas par rapport au Prince d'Égypte.
Ouais. Bah, pour rappel, l'histoire, c'est celle de Moïse, hein, tout simplement.
Voilà.
Pour faire,
sauf que,
plus gros biggie,
pour ça. Des raisons marketing, ils n'ont pas appelé Moïse parce que alors là. Il y aura encore moins de gens qui regardent ce film.
Mais si, il s'appelle Moïse dans le film.
Non, mais d'accord, mais le film
oui,
s'appelle
oui,
Moïse.
Oui, non, le prince d'Égypte. Mais c'est plus vendeur, le prince d'Égypte.
Oui, c'est ça.
C'est assez cool.
Moïse, un peu.
Bon, après, je pense que les gens savaient. Hein, pas de surprise. Mais dans mon souvenir, c'est une des rares histoires bibliques qui a été adaptée vraiment telle qu'elle dans le cinéma d'animation. Je n'ai pas d'autres souvenirs de films centrés exclusivement sur. sur des passages bah, du coup de l'Ancien Testament, ni même du Nouveau, hein, cela dit. Mais oui, le prince d'Égypte, c'est vraiment un des... Enfin, je pense que c'est un des premiers souvenirs au cinéma que j'ai, personnellement. Et c'est un grand, grand film d'animation. Très sous-estimé, comme tu l'as dit au début. Je pense que les amateurs de cinéma d'animation le considèrent hautement. Hein. C'est pas un film qui est oublié pour autant. Non. Mais c'est vrai que, par rapport à certains, c'est peut-être un concite un peu moins. Alors que, franchement, je pense que c'est un classique.
Faut pas oublier...
Avec Michel Pfeiffer qui fait une voix.
Pas oublier que c'est aussi un des films à l'époque, il faut savoir que DreamWorks avait été volé des talents chez Disney pour lancer le studio. Et petite anecdote, la personne qui a écrit, enfin le prince d'Égypte, qui a réalisé le prince d'Égypte, était quelqu'un qui a écrit le scénario du Roi Lion et le scénario de La Belle et la Bête pour Disney.
D'accord.
Donc c'est une ancienne chez Disney,
Brenda Chapman.
Exactement, ouais. Qui est maintenant aussi responsable de Brave, mais ça c'est Disney de nouveau.
Oui.
Retour à l'envoyeur, mais elle est venue faire le prince d'Égypte chez DreamWorks.
Elle est retournée au bercail.
Voilà, elle s'est fait.
Après avoir écrit quelques.
Tu reviens ici, toi.
Quelques films chez Disney. Mais il n'y en a pas beaucoup qu'elle l'a fait ailleurs, en fait. Hein.
Non.
Elle a écrit un autre film dont on parlera après.
Tout à fait.
Dont on va parler tout de suite, d'ailleurs, en fait, je pense.
Ah, pas tout de suite, non. Le prochain film, je pense pas que c'est elle qui l'a écrit.
Ah,
le prochain film, c'est oui, Kirikou.
Pardon.
Un film dont on se souvient. Si vous avez eu la chance, pardon, de voir ce film-là dans votre jeunesse ou en classe, parce que je sais que c'est le genre de film qu'on présentait souvent à l'école.
Kirikou et la sorcière. Hein, parce qu'il y a eu une suite. Après.
C'est non complet, tout à fait. Kirikou et la sorcière de Michel Oslo, qui a fait d'autres films entre-temps, dont un dont on avait parlé, je pense, l'année passée, si je me rappelle bien.
Oui.
C'était Dilili à Paris.
Exactement.
Toujours des films avec une esthétique très particulière, hein, les films de Michel.
Mm-hmm.
Mais Kirikou était vraiment ce coup de théâtre à l'époque, parce que c'était déjà un des rares dessins animés qui se passe en Afrique.
Ouais.
Mais pas l'Afrique des lions, hein. Je veux dire, la vraie Afrique, on va dire ça comme ça, avec un personnage noir dans le passage principal, etc. Où on parlait un conte africain, donc ça c'est aussi assez nouveau. Et donc ça parlait du minuscule Kirikou qui naît dans un village d'Afrique, où dans lequel il y a une sorcière, la sorcière Karaba.
Il y a un petit côté Cianzano en fait dans l'histoire de Kirikou.
Carrément.
Avec l'œil et tout.
Oui, et c'est un peu, tu vois, la sorcière, elle est quand même un peu trash, quoi. Elle les mange
ouais,
et tout.
Ouais.
Enfin, il se passe des choses. Donc, c'est un peu mystérieux, un peu mystique. Mais c'est vachement, vachement intéressant. Donc, c'est de par son esthétique, de par son sujet, de par l'originalité du conte, parce que c'est pas des histoires qu'on a l'habitude de voir, et de par aussi son rythme assez particulier. Hein. Je me rappelle que c'est la manière d'animer n'est pas du tout la même que justement à Disney ou quoi que ce soit. Donc, ça changeait totalement. Ça avait un côté un peu plus indépendant, un peu plus arty. Et pour nous, c'est une grosse recommandation. Kirikou, si vous n'avez pas vu Kirikou, à faire découvrir à vos enfants, ou à vous-même d'ailleurs, si vous êtes fan de films d'animation.
Encore un autre film de notre enfance. Hein.
Exactement. Kirikou n'est pas grand. Troisième film dont on va parler.
Il est petit d'abord.
Il est petit ?
Mais oui. Il est mon ami.
Exactement.
Kirikou n'est pas grand. Et je sais plus c'est quoi.
Ah, tu es le malin. Ah, tu es le malin. Il faut s'arrêter. Troisième film dont on va parler. Là, on retourne aux États-Unis du coup.
Ouais.
Toujours pas chez Disney. Hein. Chez Warner Brothers.
Évidemment, je pense que sans surprise, les gens ont deviné. Hein. Petit film d'animation chez Warner. Un classique.
Classique.
Classique de chez classique.
Qui est dans Ready Player One.
Qui est dans Ready Player One.
Le géant de fer.
Exactement.
Grand film d'animation. Grosse surprise surtout dans le film d'animation. Je pense qu'à l'époque, personne ne s'attendait à ce que Warner Bros. Allait sortir un film pareil.
Non. C'est sûr.
Parce que c'est pas leur spécialité d'ailleurs aujourd'hui. Si je vous dis, citez-moi des films en nombre d'animation dans les 10 dernières années.
À part les films Lego, et encore, ils sont pas tous terribles.
Bon, ok, d'accord. Mais
voilà. Non, mais vraiment, je dis pas ça juste pour justement contredire ce que tu viens de dire. Je trouve justement que ça conforte ce que tu dis. C'est que l'animation, c'est vraiment pas leur spécialité.
Ils ont pas investi dedans, quoi, c'est sûr.
Clairement. Et alors, ok, Lego, mais Lego, c'est une autre espèce de franchise. Hein, c'est pas. C'est pas vraiment des films d'animation.
Non, c'est clair.
Dans le sens classique, en tout cas. C'est de l'animation, bien sûr.
Et là, c'est l'inverse qui s'est passé. Hein. Donc, c'est Brad Bird qui avait réalisé le Géant de Fer. Et directement après, il est passé chez Disney Pixar, puisqu'il nous a fait Les Indestructibles. Il nous a fait aussi Ratatouille. Donc voilà, ça c'était toutes des choses qu'il a faites après.
Et Mission Impossible 4.
Oui, éventuellement. Éventuellement. Il avait commencé chez les Simpsons, hein, Brad Bird, pour la petite histoire. Et donc il a eu cette chance de faire le premier gros film animation de Warner Bros. Qui n'a pas décidé d'adapter les Harry Potter en version animée. Tant mieux. Oui. On sait jamais, mais voilà. Oui, ça aurait pu être un choix artistique, mais heureusement, c'est pas le cas. Et quatrième film,
ouais,
dont on va parler, je pense que tout le monde l'a vu.
Oui, et là, pour le coup, c'est celui-là que Brenda Chapman a aussi écrit.
Oui.
Voilà. Les studios Hardman, évidemment, dont on va parler un peu plus tard dans ce podcast.
Pour Shaun le Mouton
2. Pour Shaun le Mouton 2, évidemment. C'est Chicken Run.
Voilà. Ouais. Incontournable.
Ces poules qui pédalent dans cet avion. Pouf.
On s'en rappelle tous.
Bah, évidemment.
Et puis surtout évidemment. Ce fermier qui essaie de buter les poules, mais elle se casse à chaque fois. C'est...
Et c'est tourte. Hein et... Oh là là. Chicken Run, chef d'œuvre.
C'est un concept, tout à fait. C'est... Donc c'est une forme d'art parce que, comme vous le savez peut-être, ces films-là, tout comme Shaun le Mouton, sont des films qui sont filmés avec des techniques assez ancestrales. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on ne fait quasiment plus des films comme ça.
Ici, c'est du pur stop motion.
En stop motion, pâte à modeler, etc., où on change les nez, on change les bouches à chaque fois.
On parlera d'un autre film en stop motion un peu plus tard.
Oui, tout à fait.
Pas de Shaun, qui est évidemment.
Non, mais que nos amis belges peuvent connaître éventuellement.
Ah oui, mais oui, je l'avais oublié aussi celui-là, mais de deux films en stop motion.
Ah oui. C'est une forme d'art assez peu répandue aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça prend un temps fou de faire des films en stop motion. Ouais. Ça coûte très cher.
Je sais pas combien de plans tu fais en une journée, mais tu dois pas en faire des masses. Hein.
Non.
Ouais. Bah, bon.
Non, c'est clair que ça leur prend du temps. Quand tu regardes d'ailleurs les making-of des films comme Chicken Run et tout, ils ont des énormes maquettes avec tous les personnages, pardon. Et tu vois en accéléré des gens qui doivent aller à chaque fois sur le plateau pour changer deux, trois trucs sans rien toucher d'autre. Parce que forcément, si tu touches quelque chose d'autre, hop,
terminé.
On recommence à zéro. Ouais. Et donc, ça doit être assez frustrant de travailler là-bas.
C'est sûr.
Mais le résultat est vraiment bluffant. Et ce qui est très chouette aussi avec ce genre de film-là, c'est que quand on est petit et qu'on a une caméra chez soi, ce qui était mon cas, c'est facile à refaire. Pas dans le même détail que Chicken Run, mais je veux dire, on peut, avec nos jouets, essayer de faire du stop motion, c'est sympathique, pour essayer de faire un peu d'animation chez soi.
Ouais.
Je me rappelle, j'avais eu l'occasion de faire un stage de cinéma d'animation quand j'étais petit, et il avait fallu faire toute une histoire avec des jouets. C'était vachement intéressant. Le plus dur était la lumière, en fait.
Ah bah oui,
l'éclairage, putain, c'était dur. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote.
C'est un métier, chauffeur chef opérateur.
Voilà. Ouais, chez FOP, tout simplement. Oui, bien sûr, ça c'est un métier. Un métier passionnant qu'on oublie parfois.
Et oui.
Parlons tout de suite du deuxième film de la semaine.
Oui, et du coup, retour chez DreamWorks.
Oui, là on retourne chez DreamWorks. Hop, on repasse aux États-Unis encore une fois. Et le film s'appelle Abominable. Je vais pas faire semblant que je connais le synopsis ou quoi que ce soit. Je n'ai absolument pas entendu ce film. Parler de ce film, pardon. Et j'ai l'impression que c'est un peu la constante dans cet épisode-ci. À part Shaun le Mouton 2, qui, par nom, me dit quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de communication autour de ces films pour l'instant.
Abomination, c'est un.
Abominable.
Oh là là, ouais. Abomination.
Abomination.
Le film n'en est pas une, d'ailleurs. C'est un film qui parle du Yeti, pour faire assez simple.
Tout à fait, ok.
Voilà. Qui est, alors, c'est un film produit par DreamWorks, mais c'est pas un pur film DreamWorks, dans le sens où ils sont en coproduction avec un studio qui s'appelle Pearl Studio, qui est un studio chinois. Yeti, studio chinois, la Chine, marché important.
Prometteur.
Voilà, c'est plus prometteur, c'est marché essentiel.
Oui, hein. C'est ça.
Donc, DreamWorks, ils ont été malins. Hein.
Ils ont senti le poisson.
Voilà. C'est plus qu'ils le sentent là, mais ils ont saisi l'opportunité au vol. Ils se sont dit, il faut faire un film pour le marché chinois. On va prendre le Yeti, créature emblématique, qui, en plus de fonctionner sur le marché chinois, va marcher ailleurs, parce que tout le monde connaît le Yeti. Qu'il l'appelle Yeti ou Bigfoot ou que sais-je. Mmh. Voilà, tout le monde connaît.
Et les montagnes.
Mais oui.
Le setup. Ouais.
Et donc, en gros, en fait, il est question d'un Yeti qui a été emprisonné par un homme très riche et une bande de scientifiques qui va réussir à s'échapper et qui, lors de sa fuite, va tomber sur une petite fille qui s'appelle le Yi et elle va comprendre en fait qu'il faut le ramener chez lui. Chez lui, c'est l'Everest, hein, c'est l'Himalaya. Voilà. Et donc, périple, aventure, machin, enfin tu vois le bazar.
Et forcément, les méchants veulent récupérer le Yeti.
Évidemment, évidemment.
C'est King Kong.
Évidemment. C'est une histoire assez, assez simple, mais je pense que les scénarios les plus simples font les meilleurs films d'animation, en tout cas.
Ouais, dans les
pas forcément les meilleurs films, mais les meilleurs films d'animation, parce qu'il faut que ce soit compréhensible.
Bah, disons que quand tu m'expliques l'histoire comme ça, c'est plus facile à comprendre que Maléfique 2. Hein.
Ouais.
Que j'ai rien compris dans c'est la semaine passée, mais là Maléfique 2, quand tu lis le synopsis, tu comprends rien. Mais
ouais, si c'est le bien le mal, enfin
oui, bon d'accord, mais là bon c'est plus simple quoi, il y a Yeti, oui. Il faut le ramener chez lui,
point barre, voilà, et empêcher de
les méchants de revenir, voilà.
Mais
c'est ça,
mais oui, c'est très simple et c'est génial parce que en fait ça fait une superbe histoire, une grande histoire d'aventure en fait. Tu pars de Shanghai, de la ville. Forcément, ils vont traverser des montagnes, ils vont traverser des forêts, plein de types de décors différents.
La Chine, quoi.
Oui. Bien vu. Mais du coup, il va se passer plein de choses.
D'accord.
Que tu peux imaginer.
Que je peux imaginer.
Les méchants vont arriver, machin.
Oh, tout à l'heure, on te met dans la piège. Ça fait...
Un peu de tout ça.
Un peu de tout ça. Mais bon, là, par rapport à d'autres films, on sent qu'ils ont bien maîtrisé le sujet jusqu'au bout. Hein, une heure et demie, petite histoire taillée comme il faut.
C'est une ligne de conduite simple qui est parfaitement dosée, en fait, parce que c'est toujours ça le problème avec, avec tous les films, pas juste l'animation, mais c'est qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. Plein de films ne savent pas le faire. Et avec l'animation, en plus, tu t'adresses à un public jeune. Donc, tu peux vraiment pas dépasser leur 30, leur 40, tout au plus.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vraiment un grand, grand maximum, leur 40. Quoi. Ici, voilà, il est plus près de leur 40. Mais c'est pas un problème, parce que tout est une question de dosage, que ce soit dans l'aventure... dans des moments un peu plus tristes, un peu plus tendres, il y a des moments plus drôles aussi. Voilà, un film d'animation, c'est quelque chose qui, généralement, comporte à peu près tous les ingrédients, en fait. C'est du drame, du rire, des larmes. Ça, c'est le paquet parfait d'un film d'animation. Et Abominable, c'est exactement ça. Du début à la fin, tu ris, t'es attendri par les personnages... le personnage du Yeti qui est surnommé Everest dans le film, par la petite Yi, il est très bien fait parce que c'est une très belle animation, mais je veux dire au-delà de ça c'est un très chouette personnage. Évidemment il parle pas, hein, la fille elle parle pas Yeti, et lui Yeti parle évidemment pas,
il faut pas commencer à chanter quoi.
Non.
C'est un Everest.
Non,
quoi ?
Non, non, il n'y a pas de séquence chantée à la Disney. Ce qui est plutôt cool, cela dit, que tu parles chanson, musique, la musique est géniale parce que la petite Yi, elle passe, elle joue du violon et elle l'emporte durant tout son périple, ce qui donne évidemment lieu à quelques moments musicaux assez fabuleux. Il y a des très très belles séquences. Ça fait plutôt plaisir parce que je trouve que dans les films d'animation de ces dernières années, la musique n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Pas qu'elle soit mauvaise, hein, mais au-delà des Disney ou des Pixar où tu as un thème ou une chanson marquante, c'est pas forcément la musique qu'on retient le plus des films d'animation. Non. Et là, vraiment, je trouvais qu'il y avait de très très beaux thèmes au violon, ce qui est plutôt pas désagréable du tout. Donc voilà, c'est une histoire géniale, qui va droit au but, qui est drôle, qui est attendrissante. C'est très très beau, l'animation est vraiment superbe, très très précise, un beau sens, coup de crayon. C'est pas de la 2D, mais voilà, j'aime beaucoup le design qu'ils ont pris. Voilà, j'aime la musique et donc j'aime beaucoup ce film. Tout simplement.
Belle surprise du coup, Abominable.
Oui.
Très belle surprise. Alors, bonne recommandation aussi.
On avait déjà entendu de bons échos venus du festival d'Annecy, notamment. Donc je scrutais et je savais que le film avait des bons échos et en tout cas de grandes attentes des gens du milieu. Donc j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner et je ne suis pas déçu du tout.
Mais écoutez, du coup, tu donnes combien à Abominable ?
Un bon 3 étoiles, hein.
Un bon 3 étoiles pour Abominable, ça fait un peu remonter les notes là-haut.
Ouais,
ça fait plaisir, oui. Après Maléfique.
Alors, le seul petit truc, Et encore, moi, ça m'a pas gêné plus que ça. C'est vrai que c'est peut-être pour un public relativement jeune. Vu que le, voilà, l'histoire est assez basique.
Il n'y a pas la double couche DreamWorks habituelle.
Mais
quoi.
Si, ça reste pour les adultes. Moi, je te dis, j'ai absolument pris aucun déplaisir. Donc, ça reste bien pour les adultes aussi. Mais c'est vrai que c'est plutôt profilé un peu plus jeune.
Très bien. Donc, 3 étoiles pour Abominable. On continue notre watchlist. Disney n'a pas le monopole de l'animation. Avec 4 autres films, notamment un film belge. Et on va commencer par celui-ci.
Oui.
Connu de tous, hein. Panique au village.
Et Cowboy.
Et... Exactement. Donc, l'Indien et le Cowboy, hein, c'est ça le fameux duo le plus connu.
Et Cheval.
Et le Cheval aussi, tout à fait. Panique au village, film d'animation belge complètement barjo. C'est pas du tout un humour classique, on va dire ça comme ça. Et des histoires classiques non plus. Où on a vraiment l'impression que c'est deux gamins qui sont amusés à faire un film dans leur chambre avec des jouets.
Presque ça, ouais.
C'est à peu près ça, hein, et en mettant des grosses voix de Devon Salemons dessus. et on a du coup un film bien de chez nous. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, chez Panique au village? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ce film, en particulier?
C'est tout. C'est pas juste... En fait, c'est pas juste le film Panique au village, c'est un tout. C'est la série, c'est le film. C'est les courts-métrages qui ont été faits aussi après.
Ouais.
C'est un style d'animation, c'est des personnages, c'est ce truc complètement décalé.
Bien chez nous.
Et parce que les voix ont des gros accents. Hey, cowboy! Hey, Indien! Hein? Tu vois qu'ils sont bien chez nous.
Il y a pas Poulvord qui faisait un truc.
Poulvord a fait une voix dans le film aussi, oui.
Dans le film, oui, c'est ça.
Bouli Lanners aussi, je pense. Bon, Patard et Aubier, évidemment, sur le réalisateur, c'est eux qui font les personnages principaux. Jeanne Balibar aussi était au casting vocal. Frédéric Jeannin.
D'accord. Voilà.
Que des François de Brigode, des voix que dont nous, enfin on connaît ces voix. Mm-hmm. Tant que qu'auditeur de cette chaîne.
Service public.
C'est du service public, tout à fait. Donc voilà, Panique au village, c'est vraiment un tout. Je trouve c'est une écriture décalée. Enfin bref, je vais pas refaire toute la liste, mais.
Petite touche de Belgique.
Voilà, c'est. Ce truc un peu presque indéfinissable, un peu inqualifiable, ça pouvait venir de nulle part ailleurs que de chez nous. Quoi.
C'est ça.
Et les courts-métrages, style La Bûche de Noël ou le dernier qu'il y a eu, là, La Rentrée des Classes, sont des courts-métrages qui passent, qui font souvent une bonne vingtaine de minutes, hein, 20-25 minutes. C'est des trucs qui passent en festival, hein, ça. J'ai déjà vu un des courts-métrages, je ne sais plus lequel, je pense que c'était La Rentrée des Classes. Je l'ai vu dans un festival à Montréal. Enfin, tu vois ça à l'affiche de pas mal de trucs. Hein. Donc,
non, c'est clairement un film ça qui tourne. Fait son petit bout de chemin, qui représente la Belgique fièrement dans le secteur de l'animation. On n'est pas sans reste, hein, parce qu'il y a d'autres studios d'animation en Belgique. Je pense à Samy, la Tortue.
N-Wave Pictures.
Tout à fait.
N-Wave Distribution. Oui.
On n'a pas 50 000 studios qui font de l'animation chez nous, hein, mais clairement, il y a au moins quelques talents qui se font remarquer, donc c'est toujours bien. C'est notre cocorico à nous. Passons au film suivant, c'est Kubo and the Two Strings, ça c'est en anglais, ou Kubo et l'armure magique, un des films que tu avais adoré. Je me rappelle, tu m'en avais parlé, alors pourtant...
Je pense qu'on a sauté un peu un ou deux films. Mais...
C'est possible. Ok. Alors, on parle de Kubo d'abord et on reviendra sur les films précédents.
Oh, allez, oui. On était parti pour faire dans l'ordre chronologique. Hein,
bah oui, mais je sais pas pourquoi.
T'as foiré.
C'est... Merde.
T'as foiré.
Non. Ok. Ouais. Kubo and the Two Strings.
Bah oui, Kubo et l'armure magique. Mais c'est bien, on reste dans. On aura fait 3 films de suite en stop motion. Hein, parce que Panic au village, c'était ça. Chicken Run aussi.
Je crois que c'est pour ça que j'ai passé par là.
Ah parce ouais, voilà, c'était, bam, c'est vraiment... La petite séquence stop motion.
Oui, c'était prévu.
Ouais, ouais. Bah, qui vient du studio Laika. Laika, c'est le studio à qui on doit aussi Coraline, le film de Tim Burton, là, Les Noces Funèbres. Mm-hmm. C'est eux qui ont fait... c'était quoi le...
Norman, Paranormal.
Oui,
Monsieur voilà. Link aussi, voilà. Maintenant.
Monsieur Link, Missing Link, c'est ça, leur dernier film en date. Enfin voilà, ils ont fait quelques jolies choses.
Tout à fait.
Et je pense que Kubo est probablement
leur meilleur film.
Leur meilleur, ouais.
De loin.
Ouais. J'ai dit une connerie là, Croman, c'est évidemment le studio Aardman.
Non, c'est Paranorman
qui a fait Shaun le Mouton. Oui, Paranorman et les Box Trolls, c'est à ça que je pensais. Je sais pas pourquoi j'ai dit Croman, mais. Bref, Kubo, c'est un très très beau film qui se déroule en Asie avec encore un petit garçon. qui, oui, c'est le Japon. C'est
pour des raisons.
C'est féerique.
Bah non, ils aiment beaucoup l'aventure. Les films d'animation là-bas aussi, il faut le dire. Donc
ah oui, oui. Bah, gros gros pays d'animation, le Japon. Bon, après ici c'est un film américain, mais c'est une culture qui est hyper visuelle, la culture japonaise.
Clairement.
Et dans un film d'animation pour enfants, voilà, c'était juste parfait en fait. Moi, j'adore Kubo. C'est vraiment un très très beau film. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, allez-y.
Tant qu'on parle de films qui se passent au Japon, en tout cas qui ont un lien avec le Japon, est-ce qu'on pourrait pas faire un crochet par la petite île,
oui,
pour nous parler de ces réalisateurs? Bon, il y en a un qui est hyper, méga, giga connu, notamment avec ses films The Wind Rises, Le Vent se lève, ou encore Le Voyage de Chihiro. Voilà, son nom m'échappe, malheureusement.
Ah bah bravo.
Oui, mais allez, il y a beaucoup de trucs, Miyazaki, Muzizaki, Munizuki.
Quoi? Bah Miyazaki.
Miyazaki, c'est ça, merci. Donc à chaque fois, j'oublie. Oh, Miyazaki.
La honte.
Bah non, pas la honte. Et d'entrée de jeu, je dis que l'animation, c'était pas mon fort. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ces films-là, ça c'est sûr. Et c'est clair que c'est des films qui marquent une empreinte, comme tu disais, très visuel. Lui, il n'hésite pas à aller parfois dans des mondes à part. Hein. Je pense au Voyage de Chihiro, qui était très mystique, très glauque même. Enfin, t'es un peu mal à l'aise quand tu vois ce film quand même, par moment.
C'est pas toujours facile.
C'est pas toujours évident. Et tu voulais nous parler d'un film qui était peut-être un peu moins connu du cinéma japonais, mais qui était tout à fait notable pour autant.
Oui, bah, je pense qu'il a quand même connu un joli succès, notamment en France. Chez nous, je pense qu'il a eu une sortie un peu plus discrète. Ça s'appelle Your Name, un film qui est sorti il y a 2-3 ans, il y a 3 ans, je pense, 2016, qui est une adaptation d'un roman et qui, globalement, parle un peu... Enfin, c'est un garçon et une fille qui vont se réveiller dans la peau de l'autre, tu vois. Voilà. Ça, c'est très simple.
Ah oui.
Oui.
Ça rappelle des films, par contre, Disney en live action avec Hilary Duff.
C'est... Oui. Non, avec... non, avec Lindsay Lohan.
Il n'y a tu pas confonds. De Hilary Duff aussi.
Non, tu penses à Freaky, non, oui. Freaky Friday, tu penses.
Freaky Friday, c'est
avec
ça.
Lindsay Lohan et... c'était qui? Jamie Lee Curtis. Non, pas Jamie Lee Curtis. Je ne sais plus. Bref,
ça, c'est aussi c'est notre enfance.
C'est ça, en plus intelligent, en plus sensible, en plus beau, en beaucoup, beaucoup plus beau en fait. Non, Your Name, c'est vraiment une petite merveille de Makoto Shinkai. Voilà, je pense que les plus férus d'animation connaissent le film et l'ont vu. Ils l'adorent. Mais voilà, qui sait, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ce film, et dans ce cas-là, ruez-vous dessus.
Et dernier film de notre petit watchlist, Brendan.
Ouais.
Et le secret de Kells, ça oui. C'est quoi, une coproduction Secret irlandaise et belge, c'est ça?
C'est ça, belgo-franco-irlandaise.
D'accord, le trio.
Bah oui, le trio de coproduction européen par excellence, si je puis dire. Ouais,
c'est autre chose.
Ah, c'est la totale.
Trifinance.
Mais oui, bah, c'est un film d'animation basé sur le fameux Book of Kells, ce très célèbre livre écrit par des moines qui se trouve dans dans l'université de Dublin, dans la Trinity University, bref, dans le centre de Dublin. Et voilà, c'est un
Trinity,
c'est l'histoire du
Le Collège Trinity,
voilà,
tout à
Collège
fait.
Trinity, merci.
Magnifique, hein, si vous êtes à Dublin.
Ah oui, c'est super.
Avec le musée Guinness, c'est les deux attractions incontournables.
Voilà, le Colossa, on connaît. Hein.
Non, mais le musée est bien, cela dit. Mais soit on revient sur sur le sujet.
Mais ça parle de Brendan, qui incarne, enfin qui est un petit garçon, un moine, voilà, qui vit dans l'abbaye de Kells.
Écoute.
Je pense pas qu'on parle souvent de films d'animation, déjà belges, ni irlandais. Mais voilà, Tom Moore, qui est le réalisateur du film, a fait un autre film d'animation qui est sorti quelques années plus tard, qui est aussi assez beau, qui s'appelle Le Chant de la Mer. Je vous conseille les deux, d'ailleurs. Donc voilà, regardez les films d'animation européens.
Bah oui, c'était un peu notre la fin de segment Union Européenne sponsorise Cinécast pour faire part des films européens. Cela dit, il n'y avait pas que des films européens. Mais c'était la fin de notre section. Disney n'a pas le monopole de l'animation. On vous a parlé de 8 films différents. Dites-nous quoi hein, sur la vidéo YouTube, par exemple, si vous êtes en train de nous écouter sur YouTube, ou bien dans les avis hein, iTunes, pourquoi pas. Quels sont les films d'animation que vous avez vus parmi les 8 qu'on vient de citer? lesquels on n'a pas cités, on aurait dû citer, je suis sûr qu'il y en a plein. N'hésitez pas aussi à faire des recommandations entre vous, hein, c'est aussi ça le but des commentaires, que vous puissiez échanger et vous proposer des films à vous mater tranquillement.
Tout à fait.
Dernier film de la semaine, et ça je pourrais en parler un petit peu parce que j'ai vu le premier, Shaun le Mouton, la ferme contre-attaque. Alors la suite forcément de Shaun le Mouton. Shaun le Mouton sépare les réalisateurs de Wallace et Gromit.
Oui.
Même studio que Chicken Run aussi. Donc voilà, déjà un gage de qualité en tout cas en termes de filmmaking comme on dit. Alors, Shaun le Mouton, le premier du nom, en gros c'était un mouton qui s'appelle Shaun, qui part de la ferme pour aller en ville, notamment oui, à Londres. Hein, il y avait tout le côté un peu je découvre Londres et tout, je m'achète des vêtements et tout. Et toute une épopée là-bas. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Je lis le synopsis et j'ai l'impression d'avoir un autre film en tête, très proche d'un certain E.T. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vaisseau spatial qui s'écrase près de la ferme de Shaun. Décidément, il s'en passe des choses près de chez lui. Et à son bord, une petite adorable et malicieuse petite créature prénommée Lula. Et très concrètement, elle a des pouvoirs surnaturels et les moutons vont devoir essayer de la renvoyer chez elle ou de l'aider à retrouver sa famille.
Oui.
C'est pas très très proche d'un film de Steven Spielberg, tout ça. En tout cas,
c'est pas impossible.
C'est légèrement inspiré. Alors, moi j'avais un problème avec le premier. C'est que Shaun le Mouton, j'ai pas trouvé ça super réussi.
Oh,
c'est vrai que la première moitié du film était bien, mais l'autre moitié, ça commençait un peu à tomber à plat. Dès que ça devenait sérieux ce qui se passait à Londres, ça commençait un peu à me perdre, en fait, honnêtement.
Triste.
Ouais, je sais pas, peut-être que c'est le côté fermier que je préfère dans ces films anglais. Mais quand ça va trop dans la ville, moi, je suis perdu. J'aime bien la banlieue avec les jardins, là, tu vois. J'ai un vieux British dans la tête. Et donc, du coup, Shaun le Mouton 2, Farmageddon. Qu'est-ce que ça donne, Thibaut ?
Écoute... ça donne un très bon film d'animation. Moi, Aardman, je suis très client.
Chapeau.
Ouais, je suis très, très client. Donc, pour rappel, Shaun, c'est un personnage qui ne parle pas. Hein. Ils font des bruits, mais il n'y a pas de dialogue dans les films ni dans les épisodes de série de Shaun le Mouton. C'est que au mieux des grognements ou des gens qui marmonnent. Mais donc,
très Mr. Bean comme langage.
Mais du coup, ça rend la chose très universelle. Mm-hmm. Et puis, t'as pas besoin de doublage, t'as pas besoin de sous-titres.
T'as besoin de doublage.
Oui, un petit peu. Ils refont peut-être certaines choses.
Oui.
Mais globalement, c'est compréhensible par tout le monde. Et c'est ça l'un des challenges. Parce que c'est pas toujours facile de rendre visuellement un gag compréhensible par tous. Parce que les cultures sont pas toujours les mêmes, donc voilà.
Puis c'est l'humour british aussi, hein, c'est un style. Hein.
Oui. Et donc, ça, c'est assez génial parce que. Enfin, c'est un principe, un concept. T'adhères pas. Tu peux ne pas aimer le fait que personne ne parle pendant une heure et demie, mais globalement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ici, il y a un côté évidemment science-fiction évident. Il y a un extraterrestre qui débarque. Et qui va devoir rentrer chez lui. Et évidemment, ça rappelle E.T. Mais c'est pas le seul film de science-fiction auquel le Shaun le Mouton 2 fait référence.
En fait, ils sont tapés un trip, quoi. En fait, ils ont mélangé.
Ils ont tapé des références à peu près tous les trucs de SF possibles.
Ils se sont dit on va mélanger notre univers hyper british typé dans une ferme avec un truc de science-fiction.
Ouais. Mais t'as au moins deux références à Rencontre du troisième type. T'en as l'une ou l'autre à E.T. au-delà du scénario. T'en as à 2001, l'Odyssée de l'espace. T'en as à Roswell. T'as des jeux de mots aussi, parce qu'il y a pas mal de choses écrites, hein,
ouais,
sur des panneaux, bon. Des trucs. Il y a pas mal de références un peu plus discrètes. Donc ça, c'est assez génial. C'est d'aller repérer les films auxquels auxquels il fait allusion. Ça, c'est assez cool. Mais pourquoi ça fonctionne ? Ça fonctionne simplement parce que c'est très bien écrit, les gags sont terribles. Tu sais souvent où ça va terminer, mais alors autant parfois c'est un truc qui m'énerve, autant dans ce cas-ci, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne parce que ça va là où tu penses que ça va aller.
Mmh.
Voilà. Du coup, c'est très drôle, c'est hyper décalé, hyper loufoque, il n'y a rien qui est crédible, il n'y a rien qui est... Enfin, dans l'absolu, tu n'y crois pas. Tu ne peux pas croire à ce qui se passe. Mais vu que tout est comme ça, en fait, évidemment, ça fonctionne. Donc, Donc, moi, voilà, en tant que spectateur, j'adore ce genre de choses. Les studios Hardman, ça fonctionne à tous les coups. Il n'y a pas un de leurs films auquel je peux penser comme ça et je me dis, ouais, là, ils sont un peu foirés. Tout, globalement, tout ce qu'ils font est génial. Au pire, c'est passable. Mais voilà, Shaun le Mouton 2, pour moi, c'est aussi bien que le premier. Il y a la même énergie, il y a la même... voilà.
Ils ont trouvé le... Allez, ils ont un savoir-faire qui est inégalé. Hein, je veux dire, c'est eux les rois du stop-motion, en tout cas en Europe.
Oui, en Europe, c'est pas compliqué.
Une très grosse réputation. Hein, voilà, c'est Grand Mythe quand même, Chicken Run et tout. Et donc là, ils ont compris leur truc, ils le gèrent à fond et ils sont capables de faire des films... Et ça se voit, hein, tout est hyper bien foutu chez eux, que ce soit le setup, que ce soit le mélange des univers, que ce soit aussi ne fût-ce que le timing. Quoi. Tu vois, tous leurs films font 1h29, 1h30, c'est toujours hyper chronométré.
Bien sûr.
Parce qu'il y a un sens du rythme, il y a un sens de... Ils comprennent comment faire rire un enfant ou comment le faire, comme tu disais, pleurer. Enfin voilà, c'est toutes les réactions qu'on peut avoir dans l'enfant au cinéma.
Et ça fait rire tout le monde, pas juste les enfants.
Exactement. Et vu qu'il n'y a pas de langage, etc., il n'y a pas de référence pop à des trucs débiles, eh ben, ils ont un truc qui est hyper universel qui va tenir la route dans 5 ans ou dans 10 ans.
Oui, c'est ça, parce que les enfants, évidemment, ils ne vont pas avoir les références à E.T., à 2001, à Rencontre du troisième type. Les adultes, oui. Donc, je veux dire,
Non, mais tu vois, imaginons que...
Il y a à manger pour tout le monde.
Imaginons que Shaun le Mouton, je n'ai pas vu le film, mais veut communiquer avec un Indien avec de la musique. Bon, c'est très Rencontre du troisième type, mais voilà, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde peut comprendre ça, que tu sois belge, anglais, chinois. Tu mets de la musique.
Tout à fait.
T'as compris. Bref, c'était la petite... J'ai besoin de le dire. Combien d'étoiles tu donnes à Shaun le Mouton ?
Ouais, bon, 3 aussi. Hein.
3 étoiles, donc décidément 0, 3, 3. Voilà le topo de cet épisode-ci. Je propose, pour conclure cet épisode, parce qu'on n'a pas fait la semaine passée, je m'en veux beaucoup. Tu m'as un peu engueulé, là, tu m'as dit « Guillaume, ça va pas du tout.
Ouais. »
Il y a un manque de sérieux dans cet épisode, ça ne va pas.
Il a dû laisser aller.
Ça, c'est l'expression préférée de ma femme. Je t'avais dit ça ?
Non, non, mais écoute, si tu veux, on se fait un petit aparté après.
Hein. Oh putain. Oui. Oula. Je déteste quand elle me dit ça. Et donc, du coup, quels sont les autres films qui sortent cette semaine du contre-emploi, hein, parce qu'il n'y a pas que des films d'animation, bien sûr. Il y a le film Faïm, que tu as vu, il me semble.
Oui, film de PEF, des Robin des Bois. Hein,
qui d'habitude fait que des bons films.
Oui.
Le précédent c'était après Gaston. Juste pour.
Ah oui, oh mon dieu, ah oui. J'ai toujours pas vu ce film. Hein.
Attends.
Il a fait une connerie. Il a fait quoi, les deux profs
Gaston. C'est Gaston Lagaffe. Ouais. L'un dans l'autre Gaston. Aussi.
C'est quoi ça?
Avec Stéphane de Groot, Louise Bourgoin.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Mais si c'est l'histoire d'un petit garçon, je te le donne en mille, il s'appelle Faïm. Un petit garçon bengalais. Pérouvien. Bengalais. Mm-hmm. Qui va débarquer en France pour devenir champion d'échecs. Voilà. C'est une histoire vraie. C'est assez mignon, c'est sympathique. Et je pense que c'est ce que PEF a fait de mieux.
Bravo PEF.
Ouais.
Comme quoi ?
Avec Dédé, Depardieu. Hein.
J'ai vu ça.
Isabelle Nanty. C'est canon. Non, mais en vrai, c'est sympathique. Franchement, j'avais honnêtement pas beaucoup d'espoir. Et puis... C'est un peu facile, tu sais, c'est la belle histoire vraie, un peu jolie, même si tout était pas rose. Hein. Dans cette histoire, il y a eu des moments très difficiles. Mais voilà, je craignais un peu la facilité, et il tombe parfois un peu dedans, mais c'est difficile de pas tomber dedans quand c'est une histoire vraie. Que, voilà, hein.
Basé là-dessus, quoi, tu vois.
Donc on peut pas lui en vouloir pour ça. C'est la petite mignonnerie de la semaine.
Deuxième film qui sort cette semaine avec tous les autres films d'animation, c'est Hustlers Queens,
ouais,
avec Jennifer Lopez.
Ouais, apparemment.
Grosse sensation aux États-Unis, ça,
oui.
Ça a bien marché. Hein.
Oui, ça cartonne.
Jennifer LeBlanc.
Je l'ai malheureusement loupé. J'ai essayé de le voir.
Pourtant, Dieu sait que les films de Jennifer Lopez, il y a moyen de faire une soirée spéciale consacrée à ces films-là parce qu'il n'y a pas que du bon.
Ben ouais, mais apparemment, c'est bien.
Ben voilà. Écoute, pourquoi pas. Autre film, changement de registre, je suppose, Papicha.
Oui, film tunisien. Alors. On en a pas mal parlé, je pense. Je sais pas si on en a parlé spécifiquement dans le podcast, mais en tout cas, on en a pas mal parlé dans les médias liés au cinéma. Parce que le film, c'est un film algérien. Il a été interdit de projection en Algérie ou censuré, ou je sais plus exactement. Mm-hmm. Bref, c'était très très compliqué. On a appris hier, aujourd'hui, que finalement, il représenterait quand même l'Algérie pour les Oscars. Donc c'est bien.
Voilà. One, two, three.
Malheureusement, je l'ai loupé. J'ai reçu un lien pourtant, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le regarder. Parce que voilà, pour des raisons logistiques, nous enregistrons deux épisodes l'un à la suite de l'autre. Et donc, je n'ai pas eu assez de temps pour voir le film.
Des raisons logistiques, logistiques.
Ben oui, écoute, c'est la vie.
Pas de raisons logistiques.
Si. C'est des raisons logistiques.
Ok.
Ouais, monsieur part en Australie, je sais pas quoi là. Hein. Bref.
Pour faire un duplex. Ok, donc.
Bref,
très
donc
bien.
J'ai loupé le film. Il est à Cannes. Il a fait énormément. Enfin, il a fait très forte sensation à Cannes. Voilà que maintenant il est confirmé pour représenter l'Algérie aux Oscars. Donc je n'en ai entendu que du bien.
À rattraper du coup.
Ah oui. Ah ben moi je vais terminer le film.
Ce soir.
Voilà, j'en ai vu un quart d'heure. Oui, je termine le film ce soir.
Late Night avec Emma Thompson et Mindy Kaling.
J'ai l'impression que c'est Emma Thompson qui incarne Ellen DeGeneres un peu, tu vois.
Ah ouais ?
Bah Late Night.
D'accord.
Oui, c'est à ça que ça fait allusion.
Ah ok, 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 ok.
Je pense pas qu'elle incarne Ellen DeGeneres, hein, mais je dirais elle incarne une...
Une célèbre présentatrice de Late Show sur Exactement. Le déclin est contrainte d'embaucher une femme d'origine indienne au sein de son équipe d'auteurs. Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire des étincelles.
Ah, donc le personnage a l'air un peu moins ouvert que Ellen DeGeneres.
Oui, voilà. Conservatrice américaine blonde et Mindy Kaling. Pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Pourquoi pas.
Hein, comédie américaine. Maléfique, on en a parlé. Shaun le Mouton, zéro.
Et on lui a donné zéro.
Oui.
Rappelons-le.
Shaun le Mouton, le film. Shaun le Mouton, le film. What the fuck.
La femme contre-attaque. Farmageddon.
Trois étoiles.
Trois étoiles.
La vérité, si je mens, les débuts.
Je connais pas.
On a pas une connaissance qui joue dans le film, d'ailleurs.
On a une connaissance qui joue dans le film.
Un certain Félix Radu. Radu.
Certain Félix Radu, tout à fait. Très drôle qu'on retrouve en radio sur Vivacité en ce moment.
Un peu partout.
Dans Les Enfants de cœur.
Ouais, tout à fait. Donc, il est un peu partout, au théâtre, principalement.
Et donc, c'est son premier film. Bon, après, il a...
Il n'est pas dans le top 5.
Non, mais il a fait 3 jours de tournage. Hein, il a un mini-rôle. Hein, donc, ouais, voilà. On va pas... Hein.
Donc, La Vérité, si je mens, les débuts, où on se concentre, du coup, sur les débuts des personnages de La Vérité, si je mens.
Waouh, dit...
Était-ce voilà. un film nécessaire ? Je vous laisse le soin de nous répondre en commentaire. Abominable.
Pour voter non, envoyez un.
Envoyez un.
Pour voter non, envoyez deux.
Au 36-15. Donc, Abominable, on en a parlé, c'est la grosse, grosse belle surprise.
Ah oui.
Oui,
parce que Shaun, c'est aussi bien, mais c'est pas une surprise.
Non.
Abominable.
On sait que ça va être bon. Voilà. Abominable, par contre, là, c'est un peu la surprise. Film d'animation, DreamWorks, coproduction américaine, chinoise, avec un film, comme tu disais, assez simple, mais efficace. Autre film d'animation, mais un autre délire. Hein. Loup tendre et loufoque de Arnaud de Munch, 50 minutes.
Il y a un super jeu de mots dans le titre. Hein.
Oui.
Ouais.
Je suis fatigué, je ne vois plus. Loufoque. Ah, il y a un phoque ou pas dans le film ? Non. Donc, ok. Très bien.
Je pense pas.
Et dernier film de la semaine, changement de registre de nouveau, Roubaix, une lumière, un film de Arnaud Desplechin avec Roche Dizem et Léa Seydoux.
Ouais, qui était en compétition à Cannes,
à
que j'ai vu à ce moment-là, qui ne sort pas de façon classique en Belgique. Il n'a pas de distributeur, en fait. Donc, c'est quelques cinémas qui décident de le sortir.
Desmond Vinay Palace.
Dont le Cinéma Palace, à Bruxelles. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Je pense qu'ils sont au Grignou, Liège et Namur. Voilà. Le film d'Arnaud Desplechin qui vient de remporter le prix du meilleur film lors du dernier FIF Namur, Festival International du Film Francophone.
Toi aussi tu dis FIF Namur, ouais. Mais non, on est mal parti.
Ah oui, mais ça me fait rire. Qui globalement raconte une histoire d'appart qui brûle, enfin qui a cramé à Roubaix. Et il va y avoir une enquête. Voilà. Globalement, le film se déroule en deux parties. Après la projection à Cannes, c'était clair qu'il y avait deux camps. Tu vois, il y a ceux qui préfèrent la première, ceux qui préfèrent la deuxième. La deuxième est plus l'enquête policière même. La première est un peu plus cinéma social. Tu découvres vraiment comment est cette ville. Parce qu'il faut savoir qu'Arnaud Desplechin est originaire de Roubaix. Hein, c'est pas le Parigot qui va filmer une ville qu'il connaît pas. Il est roubaisien d'origine.
Arrête de dire ça, parce que du coup, les Parisiens ne vont plus aller filmer des villes qu'ils ne connaissent pas.
Pas plus mal. Moi, je préfère vraiment la première partie, qui est donc plus sociale, plus découverte de la ville, où tu découvres les personnages, qui est vraiment très très bien. L'enquête policière est un peu moins bien sur la deuxième partie, malheureusement. Et puis, il y a un trio de comédiens, Roche Dizem, qui incarne un flic, qui est très bien. Sarah Forestier, qui fait une des deux... dans une maison... Il y a des filles qui sont témoins de ce qui s'est passé. Mmh. Elles vivent ensemble. Sarah Forestier incarne une de ces deux filles. Elle est très bien. Elle a souvent fait un peu des rôles de cassos. Elle tient bien le truc. Mais j'ai pas dit qu'elle était une Cassos, elle joue des, elle a joué quelques rôles de Cassos et elle les fait très très bien. Et il y a Léa Seydoux qui fait aussi une Cassos. Et là par contre, c'est un peu plus laborieux, hein.
Oui, on y croit un peu plus mal. C'est un peu plus compliqué
on,
quand même.
On y croit un peu moins, ouais. Donc voilà, oui, j'ai fait presque une vraie critique de Roubaix.
Oui, bah
mais
écoute.
Je pense qu'il fallait quand même un peu dire quelques mots dessus. Et si je devais lui donner une note là comme ça, je dirais quand même 2.
Ok.
Parce que c'est Desplechin, réalisateur que j'aime beaucoup, et que même si le film a quelques défauts, c'est une jolie proposition de Desplechin qui sort un peu de ses propres chemins battus.
Bah écoutez, battu. Voilà. C'était tout pour cette semaine.
On a fait un épisode quasiment aussi long que d'habitude.
Voilà.
Tu vois ?
Saison 3, épisode 6. Consacré en grande partie aux films d'animation, qu'ils soient étrangers ou européens, puisqu'on a fait cette section watchlist avec les films européens qui ne sont pas du coup Disney.
Pas que européens.
On vous invite à vous abonner.
Il y avait du japonais, de l'américain, t'as déjà oublié ?
Mais non, mais je sais, mais international, mais je veux dire autre chose que Disney, quoi, simplement. Voilà, qu'on arrête là, autre chose que Disney. Donc, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de streaming de votre choix, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou quoi que ce soit, ou à notre chaîne YouTube, donc Cinécast sur YouTube, où là vous avez les différents extraits des podcasts. Si vous n'avez pas le temps, quoi que ce soit, vous avez juste 5 minutes, hop, vous pouvez mater un extrait. Ça reste quand même pratique, comme ça, chacun a ce qu'il veut, quoi. À la demande, on demand.
Franchement, j'aurais pas pu mieux dire.
Enfin, très bien. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Bah, merci à toi. La semaine prochaine, oui, moi je serai là. Toi aussi ?
Je serai là, bien sûr. Okay. Au rendez-vous, fils de l'Opost.
Bah, des bisous alors.
Ciao, ciao.